disais que le sang bleu, c'est vraiment une mise en squelette du Romain du Roi.
Ouais.
Et on se rend compte que quand on, à partir de ce squelette, on en fait une sans sérif, sans contraste, on arrive à peu près sur les traces de l'unica.
Ouais.
On a des courbes très très proches de l'unica.
Ah ouais.
Et François Rappeau a fait un revival, il a fait de nombreux revivals de Didot, je pense, actuellement le plus grand expert de la famille Didot et des structures des polices caractères de Didot. Et il a fait dans la série, pardon, il a fait un revival, juste quelques lettres, d'un spécimen, sauf erreur, je ne vais pas dire de bêtises, de Pierre-François Didot de 1770-1780. Je ne sais plus exactement la date, mais c'est un Didot assez tôt, on va dire.
Ouais.
Et il a juste repris cette structure, il en a fait une sans serif aussi.
Mm-hmm.
Et là aussi, on tombe directement sur l'unica. Et
alors, c'est quoi la collusion de tout cela? Ça veut dire qu'il y a des rémanences, une sorte de logique implacable de la forme parfaite. On retombe toujours quelque part sur un lieu commun, sur...
Non. Je ne sais pas si je ne l'aurais pas vu comme ça. Je pense que qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont vraiment découvert une structure. D'autres personnes, par exemple en Angleterre ou en Allemagne, sont parties sur d'autres types de structures. On a redécouvert ces structures avec Frutiger, je pense. Maintenant, la typographie, ce qu'on a appelé typographie suisse, est directement, je pense, issue des squelettes des polices de caractère françaises du XVIIe.
C'est
une théorie.
Frutiger n'a jamais été calligraphe.
Il n'est pas reconnu comme un maître calligraphe, mais il est issu d'une école de calligraphie suisse, ou du sud de l'Allemagne, on va dire, moi que je connais très mal. François Rappeau, qui serait plus expert pour parler de ça que moi, mais il y a vraiment une école de calligraphie de cette zone géographique, on va dire. Et il y a des structures assez fascinantes. Par exemple, j'ai récemment découvert une fonte dont je suis en train de travailler dessus, qui s'appelle le Dittelm, fait par un Suisse, qui s'appelle le Dittelm.
Oui, je crois que je connais.
Et c'est assez fascinant de voir les structures calligraphiques qu'elle a derrière.
La Creative Alliance, il y a une fonte Dittelm dans la Creative Alliance.
Elle existe, mais pas en digital.
Non.
À ma connaissance, pas, mais c'est possible. Mais en fait, on est dans le méridien. C'est le méridien.
Oui.
Le méridien est... Et en fait, on se rend compte que quand on regarde le méridien, que c'est pas une fonte qui est sortie comme ça, on dit... Ah. Non, en fait, il y avait une école où plein de graphistes et de table designers de cette région-là, en fait, dessinaient ces polices de caractère-là.
Une question technique. L'Europe, ça a été dessiné par qui? C'est une question
idée.
Ce qu'on appelle l'Europe française, l'Europe, le caractère grotesque, gothique, linéal, l'Europe, qui aurait dessiné l'Europe,
la
première Europe qui aurait été dessinée,
Europe dans le style, tu dis,
dans le style, oui.
Aucune idée.
Puisque c'est quand même relativement proche d'un Helvetica et d'un univers, hein. c'est presque un entre-deux.
Je sais pas.
C'est beaucoup plus proche d'ailleurs dans l'univers.
L'univers étant vraiment le parfait mélange, je pense, de ça, puis de cette école suisse. On voit les premiers croquis dans le livre de Frutiger qui est sorti récemment. Ces dessins de traits de Baudouin qu'il faisait dans ses cours, où il a déjà les bases de l'univers qui sont posées. Non, alors je sais pas, c'est une colle que tu me poses. Enfin, soit t'as une réponse.
Non, j'ai pas de réponse.
Tu dirais quelle.
J'ai pas de réponse. Alors, je vais faire un coq à l'âne. Est-ce que des gens comme Matthew Carter, qui ont à l'époque avec Mike Parker créé Extreme, est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu mis une certaine pagaille dans le paysage de ce qu'on a pu appeler revival, renomination de police de caractère, est-ce qu'il n'y a pas eu en fait entre les années 80 et 90 un cafouillage énorme?
Obligatoirement.
Comment?
Oui.
puisque
mais c'était inévitable.
D'ailleurs, il n'y a pas, et je le cite, c'est pas uniquement Bitstream, c'est également Compiographie qui prenait le dessin de Pika qui l'a pris Suisse, l'Alpha Type qui prenait le dessin de Pika qui l'a pris Claro, etc.
Mais c'était inévitable.
C'était inévitable.
C'était inévitable parce que les personnes se sont revendiquées, des fonderies se sont revendiquées, comment dirais-je, presque créateur ou détenteur des droits d'un dessin, alors que ce dessin ne leur appartenait clairement pas. Ils appartenaient même pas, pour la plupart, aux designers qui les avaient faits pour eux. Je veux dire, les dessins de l'Helvetica, on voit d'où ils viennent, on sait comment ils ont été faits, on voit le Royal Grotesque, on voit d'où il vient aussi, et finalement, enfin, on voit que c'était facile maintenant de prendre par exemple des dessins de Ferdinand Teinhardt, dont bientôt, je pense qu'on peut le dire maintenant ici, il y a la fonderie Optimo qui va sortir une version du Teinhardt. Je ne sais pas si tu vois le Ferdinand. C'est la première grotesque, elle date de 1870, qui est le modèle de base de l'Axiom Grotesque. Et en fait, François Rapeau a dessiné pendant ces 5 dernières années, il a dessiné une gradation graisse de, je crois, 9 graisses, si je ne me trompe pas, du Teinhardt. Donc, c'est une espèce de version de l'Axiom Grotesque assez incroyable.
Et c'est un peu humain ou
dans la plus pure tradition grotesque allemande, suisse, on va dire. Là, je me contredis un peu.
Qui serait donc antérieur au grotesque, à l'accident grotesque de Bertolt.
Bien avant. C'est le premier. Donc, le Ferdinand Teinhardt, ce serait le premier qui aurait dessiné une grotesque. Et donc, elle va s'appeler le Teinhardt et elle sort.
Alors, est-ce que.
Je peux te la montrer après, d'ailleurs, si tu veux.
J'ai posé la question à un historien de la graphisme, qui s'appelle Michel Blasikoff. J'ai posé la question, est-ce que tu sais d'où vient le mot grotesque ? Et tu es incapable de me dire d'où vient. Est-ce que tu peux me dire d'où vient le mot signification du mot grotesque ?
Qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est au premier degré grotesque comme mal abouti ?
Moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais il y a, j'ai entendu une conférence de Fred Smayer quand j'étais à l'AE, qui a donné une conférence sur les grotesques. Ou les sans-séries, attention, très important.
Ouais.
Sur les sans-séries.
Ça élargit le débat.
Voilà, il parlait de l'origine des sans-séries, pas l'origine, on va dire, au niveau gravure lapidaire grecque. Vraiment.
C'est les Phéniciens, même.
Voilà. Il en parlait, mais c'était pas ça le point intéressant. Il expliquait qu'une des théories qu'il mettait en place, c'était de dire que c'était des polices de caractère faites pour la lecture pour aveugles au XVIIIe siècle en France. Il faisait des systèmes de gaufrage sur papier et il se serait aperçu qu'enlever les sérifs, ça facilitait la reconnaissance au doigt. Alors selon lui, ce serait la première fois où on verrait des gravures de sans sérifs. Voilà, je cite et je n'ai absolument pas d'avis là-dessus.
Dire que c'est l'origine du sans sérif.
Non, il dit que c'est la première fois qu'on voit des polices de caractère gravées dans du plomb utilisées pour composer des textes.
D'accord.
Autrement, c'est autre chose. Autrement, on remonte beaucoup plus loin. Et avec d'autres raisons, on pourrait autrement voir le livre Origin of the Serif. C'est tout à fait autre chose. Non, là, il dit dans la composition par caractère mobile. Ça commencerait en France autour de la Révolution. Ce seraient les premiers. Ensuite, après, il y a en Angleterre. Et la première grotesque officielle serait celle de Teinhardt en 1870. Et il a recensé en Allemagne dans les années tout début du XXe siècle. Il y avait plus de 150 fontes qui s'appelaient Accident Grotesque.
C'est énorme.
Donc, tout le monde avait la scène. Moi, j'ai fait un apprentissage de peintre en lettres. C'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du type design. Et chaque atelier, dans le mien en l'occurrence, on avait tous un modèle d'Helvetica. Enfin, appelons ça Helvetica. C'était une sorte de machin entre l'Helvetica et l'Axiom Grotesque. Et on devait l'apprendre par cœur. Enfin, on avait quelques modèles des grandes familles à apprendre par cœur. Comme ça, on pouvait aller écrire sur le café du coin. café croissant en écrivant en Helvetica. Enfin...
Donc c'était pas en Banco ni en Choc
Ah non, c'était le modèle, c'était l'Helvetica. Et chaque atelier de graphie, de peintre en lettres, avait son modèle d'Helvetica qui se transmettait de patron en apprenti. Donc on a. J'imagine que dans le cas des grotesques allemandes, c'est exactement ça. Ils se les passaient de l'un dans l'autre.
Aujourd'hui, si tu fais un rapide tour d'horizon sur l'offre typographique mondiale à travers la toile, tu trouves combien de fonderies indépendantes je ne parle pas des fonderies
des grosses
monotypes qui a tout racheté, qui a raflé tout le marché quasiment officiel. Mais combien y a-t-il d'après toi de petites fonderies individuelles, mono
De bonne qualité.
Moins de 50 ou plus que ça?
Ah, je pense qu'on a moins de 20.
Il y en a moins de 20.
C'est pour mes critères.
Pour mes critères,
et puis surtout par rapport au graphisme que j'aime.
Est-ce que pour les lecteurs de Design et Tifo, tu pourrais m'envoyer les liens des 20, de ces 20-là?
De 20 fonderies, oui, ouais, bien sûr. Ouais.
Que je puisse illustrer le son avec l'image, avec les liens.
Tout à fait, bien sûr. Enfin, ce sera un avis personnel qui m'engagerait, évidemment. Je pense que c'est important de préciser quand je dis qu'il y a 20 fonderies, à mon avis, qui m'intéressent. Ça veut dire que je vais pouvoir acheter dans cet endroit-là des fontes de très haute qualité pour un graphisme, pour un style graphisme, un style graphique en fait. Ça veut dire que moi je m'intéresse très peu au packaging, c'est un domaine où je m'en fiche particulièrement.
Mais tu t'intéresses à la presse quand même.
Alors voilà, je m'intéresse à la presse, presse magazine.
Le bureau fera partie de tes.
Bien évidemment. Mais bon. Là, on est. C'est très intéressant que tu cites Fond de Bureau parce que ce Fond de Bureau est une fonderie, une petite fonderie indépendante.
Bah oui. Est-ce que Fond de Bureau, c'est une question?
Ouais, ouais.
Ah,
moi, je pense pas. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus.
Bah, ça ne l'est plus.
À quel moment ils ont commencé comme une fonderie indépendante, mais maintenant, ils ont un catalogue suffisamment grand pour.
On peut espérer aussi qu'un jour tu aies un catalogue aussi grand que nous.
J'espère. Non, alors, en fait, non. Je vais dire non, j'aimerais pas avoir un catalogue aussi grand que. Parce que je pense qu'ils ont un catalogue trop grand. Moi, j'aimerais rester une. Moi, je ne sais pas si je parlerais dans ce sens-là entre une. J'essaierais de séparer une fonderie indépendante et une. Je ne sais pas quel serait l'autre terme pour dire une fonderie.
Moi, j'appelle une fonderie indépendante, en tout cas, une fonderie qui ne propose que des polices dessinées par cette fonderie. Déjà.
C'est-à-dire que, par nous, exemple,
si je prends Monotype, pour moi, ça fait déjà plus partie de cette catégorie-là.
Clairement pas.
Monotype a déjà trop fait de croissance externe, de rachat, etc.
Moi, je pense qu'il y a deux choses qui définissent, en tout cas, une fonderie pas indépendante. Premièrement, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'elles ont une histoire suffisamment longue pour ne plus être qualifiées de petite entreprise créée par deux personnes. Voilà. Et il y a aussi la quantité de fonds dans le catalogue.
Ouais.
Moi, ça, c'est deux éléments que je... Personnellement, on pourrait en mettre d'autres.
Hein. Flair, c'est quand même indépendant.
Alors pour moi, c'est une fonderie indépendante, mais on est. Le fait de dire que c'est une fonderie indépendante, ça devient ambigu. Je pense qu'à l'ère du web maintenant, de la diffusion des polices caractères sur le web, je parle pas des années 90, je parle vraiment maintenant, on va dire en 2010, 2009. Je pense qu'on peut plus qualifier une fonderie indépendante juste parce qu'elle a une présence sur le web et qu'il n'y a que deux personnes qui en sont. J'ajouterai un troisième critère, c'est l'influence qu'elle a sur le reste on va dire, du monde en tant que visuel. Et je pense que Hoefler, la fonderie Hoefler, ils ont passé ce stade-là il y a quelques années avec le succès du Gotham, je pense, et du Mercury. Et ils viennent de devenir une espèce de classique, enfin, quelque chose de plus qu'une petite fonderie indépendante.
Ouais,
c'est mon avis.
Oui, mais moi j'aimerais quand même le garder dans cette catégorie. Autrement dit, je repose la même question. J'inclurai dans la définition de fonderie indépendante des fonds bureaux et des offres.
Ou alors est-ce que ça a encore un sens de parler, de faire des classements?
Je ne parle pas de classement.
Alors,
de fonderie de qualité, allez. On va requalifier la question. Combien y a-t-il de fonderies qualifiées hors monotype, hors les grands classiques? Combien y aurait-il de fonderies qualifiées?
C'est comme ça que j'ai répondu en fait à la question.
Et alors dans ce cas-là, Hoefler fait partie.
Bien sûr, fonds de bureau, on aurait, bon, je ne sais pas. Fond de Shop ne ferait pas partie parce que c'est un cas à part, c'est un distributeur. Bon, ils ont des fonds qui sont qu'à eux.
Oui, mais bon, c'est pas leur tasse de thé.
Et historiquement, pendant un moment, ils ont été l'image même de la fonderie indépendante. Hein.
Historiquement, ça l'a été
pendant une dizaine d'années presque.
Ouais, ouais, avec Fuse, tout ça, les FF.
Qui sont passés, et je pense, comme Hoefler, ils sont en train de passer à un autre stade. Je ne dis pas que c'est l'équivalent, je dis qu'ils sont en train de. Ouais. C'est autre chose.
Ouais, en fait, moi je pense que c'est quand même d'abord et avant tout une affaire commerciale.
Complètement. Hoefler, on peut se poser la question. Non, mais je ne sais pas, est-ce que le Gotham a vraiment été motivé par des raisons commerciales? Moi, j'ai l'impression qu'il y a, une espèce de...
C'était une police de commande au départ, non?
Mais je ne connais pas l'histoire du Gotham, il me semble.
Ça a dû être une police de commande au départ.
J'ai l'impression que moi, j'ai rencontré plusieurs fois Tobias Fair-Jones. Ouais. Et j'ai l'impression que, pour moi, le succès de la fonderie Hoefler, c'est une espèce d'amour très fort du dessin de caractère avec une exigence absolue et un feeling incroyable, et ils ont réussi à percer, mais ils ont jamais, j'ai pas l'impression, même ça reste des Américains, mais avec une idée assez claire du business derrière, mais je pense que ils ont jamais voulu absolument avoir du succès. Je pense pas qu'ils ont créé le Gotham, enfin, je simplifierais comme ça, je pense pas qu'ils ont créé le Gotham pour la campagne d'Obama. Enfin, tu vois dans quel sens je veux le dire, c'est pas, je pense qu'ils ont il y a de la sincérité. Je pense que derrière Fondshop, il y a sincérité, mais il n'y a pas de
la collection
Fond Shop, ils font du business
derrière,
hein.
La collection Fond FF, voilà. Il y a de la sincérité,
c'est de la sincérité, enfin, mais je ne veux pas mettre sincérité en opposition avec quelque chose du profit gratuit, enfin, mais je dis juste que c'est qu'il n'y a pas uniquement une idée de profit derrière, il y a vraiment une idée de créer de la bonne typographie, vraiment, avec si ça ne marche pas, ben tant pis, ils prennent des risques. Je pense qu'ils ont pris des risques au Fleur. Je pense que quelqu'un comme Peter Bilak a pris des risques énormes en faisant sa fonderie et sa paye. Dans le même sens, je pense que c'est peut-être ça aussi pour moi une bonne fonderie. C'est une fonderie qui ose prendre des risques. Je pense qu'en France avec Porchès, il ose prendre des risques parce qu'il affirme ses idées d'une façon tellement forte qu'elles ne sont pas issues d'une idée de business. Elles viennent du cœur. Oui, il aura toujours son côté. Je débarque avec une baguette prenable chez eux. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce bit-là que je verrais une prise de risque, je recentrerai sur la prise de risque, c'est qu'on ose dire, on dit voilà, moi je viens et je propose ça.
Oui, alors est-ce que
c'est ma vision de la typographie.
Est-ce que c'est à cause de cela aussi que tu es contre le fait que, ou que tu exclues des fonderies, celles qui ont maintenant trop de police de caractère?
Je ne les exclue pas parce que nous, on est distribué par Fondshop hein, aussi.
Oui, mais
donc je ne les exclue pas.
Mais quand je te demandais de me citer les 20. Fonderie indépendante de qualité, etc. Tu disais oui, mais celui-là, je sais pas trop. Parce
non,
que
alors.
Fonds de bureau, ça y est, il commence à en avoir trop, etc.
Oui, parce que finalement, ça viendrait. Parce que la plupart des gens que je citerai dans les 20, ils sont forcément chez Fondshop. Ouais. En fait, citer Fondshop, ça revient à citer les fonds. Ouais. Je veux dire, voilà, est-ce que cite-moi, voilà. Si tu veux des fonds, tu vas chez Fondshop.
Autrement dit, est-ce que ta réaction par rapport à Fondshop ne serait pas simplement une réaction épidermique du style depuis que Spiderman n'est plus là, Fondshop ne se vend plus avec la passion typographique?
Ah non, moi j'ai vraiment aucune espèce de critique ou quoi que ce soit sur Fondshop.
Parce que la créativité aussi de la promotion de Fondshop faisait partie de l'ADN de Fondshop.
Moi je pense qu'il faut les deux, et c'est pour ça que je compte.
Quand vous sortez un magazine pour le sang bleu, hein, pour vendre, pour démontrer le sang bleu, c'est une forme de passion totale, globale.
Alors c'est
genre 360 degrés.
On peut parler, le sang bleu, c'est un petit peu différent, sang bleu. C'est pas pour promouvoir la fonte, c'est un aller-retour. Mais juste pour finir sur l'histoire de Fondshop, je pense qu'il faut les deux. Et je pense que Fondshop, c'est génial parce qu'il y a toutes les fontes qui sont là-bas, on peut aller acheter là-bas. Mais il y a à boire et à manger. Je veux dire, on va là-bas, on ne sait pas ce qu'on veut, ça se perd dans le catalogue. Et puis tant mieux que ça existe. Voilà, on a tout. Et quand on va dans une fonderie, on va dire indépendante, le terme d'avant, c'est que on vient avant tout parce qu'il y a une attitude. On se positionne. Avec BP, on va de plus en plus, on se positionne dans un certain style. On dit voilà, nous, on propose des fonds pour ce style graphique. Vous ne le faites pas, vous pouvez quand même acheter. Mais si vous êtes dans ce style graphique, vous travaillez pour ce type de mandat, si vous venez chez BP, on va vous proposer ce type de fonds. Et c'est là qu'on peut bondir sur le magazine Sang Bleu. L'Ourson Bleu, c'est un magazine de mode, de luxe, on va dire. C'est clairement le positionnement de BP. BP va de plus en plus et propose des fontes pour le milieu de la mode, du luxe, de la presse, voilà, de la tendance et de la presse aussi, d'une certaine presse de qualité, on va dire. Donc voilà, c'est ça. Contre lequel, je veux pas un catalogue gigantesque, mais j'aimerais qu'il y ait un catalogue dans lequel on dit ah, j'ai besoin de faire ça. Je sais que si je vais là-bas, c'est certainement ça que je pourrais. Comme Manon, on peut aller chez Line et tout. Toi, on veut faire du graphisme cool zurichois.
Ouais.
Tu vas chez Line et tout, tu as les fonds pour faire du graphisme cool zurichois.
Ouais.
Et il y a une attitude, elle succède, et leur succès.
Ouais.
Bah, nous, on est à cette école-là. Moi, j'ai eu Cornel, pas comme prof, comme expert de jury, mais toi, mes profs ont été énormes, ce genre de personnes, c'est mes profs de graphisme. Donc, j'ai été à cette école-là, et pour moi, notre modèle, je veux dire, c'est. Notre business plan, on va dire, c'est Line et tout.
Et alors, donc, maintenant, parle-moi un tout petit peu de tes cours que tu donnes. Alors, quand tu donnes quel genre de cours exactement c'est à Lausanne ou à Zurich?
À Lausanne.
Hein. Quel genre de cours tu donnes?
C'est l'ECAL, l'école cantonale de Lausanne. C'est, moi, je m'occupe du.
Est-ce que tu apprends à dessiner des caractères?
C'est vraiment un cours de type design pur et dur.
Alors, vas-y.
C'est que. Depuis quelques années, enfin quand moi j'ai commencé, François Rapport, au début il donnait, les cours étaient des cours de graphisme, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne sais pas si tu connais, t'as connu un peu, tu connaissais avant l'école ou pas du tout
L'école, j'ai entendu parler récemment.
C'était la grande, était des profs là-bas, il y a eu David Brody, sauf erreur, Carson est venu aussi. Enfin, c'était vraiment très lié. Des conférences, sauf erreur.
Ah, des conférences.
Il n'a pas enseigné, mais par contre, MM était prof avec Inès Van Landverde. Il y a eu. Tout ça pour dire que c'était une école de graphisme, pure et dure, qui a été créée par une espèce de. On va dire de génie éclairé comme ça, qui s'appelle Pierre Keller, qui a repris l'école de Lausanne qui n'était du rien, qui s'appelait les Beaux-Arts de Lausanne, et qu'on a fait en 5-6 ans une des, je pense, 4-5 meilleures écoles de graphisme du monde, je pense, maintenant. De design au sens large du terme. Et donc ça s'est lancé sur le graphisme, et petit à petit, François Rapport, qui était passionné de dessin de caractère, qui faisait qu'un pur autodidacte, il a commencé à enseigner le dessin de caractère par des petits inputs. Il y avait un cours de dessin de caractère. Moi, j'étais une des premières sessions, mes 4 ans que j'ai fait là-bas, où on a commencé à vraiment faire du dessin de caractère. Je suis le premier à avoir fait un vrai diplôme de type design. Il y avait eu quelques-uns avant, par exemple, de la fonderie Optimo. C'était des deux anciens de l'ECAL, et Optimo était un projet de l'ECAL, en fait. De plus en plus, voyant que ça fonctionnait, qu'il pouvait utiliser le type design et sa vision du type design, il a commencé à faire donner de plus en plus de cours de type design à l'école, et c'est à ce moment-là que moi j'ai fini, je suis parti en Hollande faire mon master, et quand je suis rentré de Hollande...
C'est-à-dire que tu as fait 3 ans de l'école, en gros là-bas.
C'est 4 ans.
4 ans d'école, et puis ensuite tu es parti faire 2-3 ans.
Je suis parti, j'ai fait une année de break, on va dire, où j'ai en fait été assistant enseignant à l'école.
D'accord.
C'était une sorte de job entre deux.
Mm-hmm.
Et je suis parti faire mon master une année en Hollande.
Mm-hmm.
Et en revenant, François Rabot a dit voilà, viens, on va essayer de booster le type design à l'école. J'ai des ambitions, on va essayer d'en faire quelque chose. D'ailleurs, je vais venir, ça va plus que se concrétiser. Et il m'a dit, tu prends directement les 3e année, section diplôme, enfin année diplôme, je veux qu'en diplôme, il y aille au moins 2-3 polices de caractère qui sont un diplôme niveau bachelor. Il m'a dit, il l'a dit un peu comme ça, mais si je me souviens bien, il a dit, je veux que ce soit les meilleurs bachelors de typo en Europe. Alors on l'a fait, j'ai donné ses cours, j'ai investi beaucoup de temps, c'était plus que du 8 heures par jour. C'est jusqu'à 11h du soir à l'école, à donner les cours. Et on a eu effectivement trois diplômes de type design cette année-là. Donc, c'est pas nous qui sommes les jurys, hein, c'est toujours des jurys extérieurs. Ils ont eu tous 6, enfin 5 et demi et 6. Mmh. Ça fonctionnait.
C'est meilleure note.
Ouais, ça marchait. Donc,
il y avait combien d'étudiants là
pour en diplôme
Oui, dans ce cours, il y avait combien d'étudiants?
c'est tout le monde, tous les étudiants ont différents cours, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont...
Oui, mais, d'accord.
Sauf que c'est tous les étudiants du... Par classe, c'était des classes, l'école a changé, parce que c'est en train de devenir une espèce de monstre. Mm-hmm. Mais c'était des classes de 12, 15, ouais. C'était très petit.
Ouais.
Et maintenant, on est à 25.
Ouais.
Et donc là, maintenant, on s'est dit, ah, bon, on va pousser le Thai Design plus encore. Et maintenant, les étudiants, ils ont... En première année, ils ont presque un jour et demi de cours de Thai Design par semaine. En deuxième année, une demi-journée, voire un poil plus. Et en troisième année, ils peuvent faire un projet de Thai Design presque toute l'année, avec associé avec d'autres cours.
Et en troisième année, quand ils arrivent en troisième année, donc on est en licence, là.
C'est ce qu'on appelle un bachelor.
Bachelor, c'est la licence en français.
C'est ce qui permet d'entrer en master.
Donc après, c'est l'entrée en master.
Voilà. Et... Donc, pour répondre très précisément à la question, c'est donc moi j'enseigne vraiment le côté très pratique. On a une idée de l'enseignement du Thai Design à l'école qui est certainement différente d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu leur recommandes à lire à tes étudiants quels sont les trois livres que tu leur recommandes en début d'année?
Je leur recommande de regarder les polices de caractère dans les livres qu'ils lisent habituellement.
Oui.
C'est ce que je leur recommande de faire.
D'accord.
Je leur recommande pas. Je suis pas quelqu'un qui croit à l'enseignement par livre, aller lire plein de choses. Moi, je leur recommande de venir au cours et de travailler beaucoup et de faire ce qu'on leur demande de faire.
Mmh.
Et de faire confiance sur comment on enseigne. J'ai pas de lecture à proposer. Et vu l'enseignement comme moi je le fais, il n'y a aucune lecture qui correspond à ça. Notre enseignement n'est pas unique, ni complètement incroyable.
Oui,
alors je peux le décrire en fait. Par exemple, premier semestre, on va leur faire dessiner un squelette. Là où beaucoup de gens auraient tendance à commencer avec la calligraphie, ou à, par exemple à dire on va digitaliser ta propre écriture comme ils font à l'école estienne, nous on a un enseignement, on va dire travailler avec, vous allez faire un squelette. Et parallèlement à ça, ils ont un tout petit cours de calligraphie, mais c'est pas un cours en fait. C'est que je leur montre comment on écrit avec une plume et sur le modèle hollandais, le modèle que j'ai appris à La Haye. Et à partir de ça, ils doivent commencer à découper trouver les meilleures lettres qu'ils ont faites, découper, travailler des modules et travailler ensuite avec une construction modulaire. C'est-à-dire qu'on travaille avec on découpe le O en deux parties et on va commencer à créer des modules, chercher les modules et réduire la police de caractère au nombre le plus minimal de modules et ensuite créer une. Donc on a une approche assez constructiviste en fait. Et parallèlement à ça, il y a le dessin du squelette, qui est une approche, on va dire, où il n'y a pas de viande autour de la lettre, c'est uniquement de la structure.
Tracé,
voilà, il n'y a plus de calligraphie en fait.
Non, c'est tracé, la construction elle-même.
Et on a un dessin, on va dire, très organique du coup.
Oui, bien sûr,
Et après, le deuxième semestre, où ça dépend, le cours change chaque année, on le fait évoluer, on regarde, on y va un peu au pif par moment. Et après, ils doivent engraisser ce squelette et faire une sans-sérif, sans contraste, à partir de ce squelette. Et on obtient des espèces de...
Donc un book, un médium, quoi.
Je leur demande un régulard,
Un
régulard, pas des graisses extrêmes comme un bold ou un light,
qui pose d'autres problèmes.
Qui pose trop de problèmes. Et moi, j'ai vraiment
d'autres
mais beaucoup de problèmes. En tout cas, pas les bons, en tout cas, par rapport à ce qu'on veut faire.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est une approche très pragmatique, comme ça, sur la structure. Et on réfléchit énormément à la structure. C'est-à-dire qu'on ne va pas enseigner comme à La Haye, une structure de base sur laquelle on va moduler un peu la viande. On va éclater la structure complètement. Toute structure devient possible, et même des fois hors calligraphie. Surtout d'un coup, on va pouvoir avoir à l'intérieur quelqu'un qui va travailler sur une structure telle qu'il y a dans le dithelm, ou une structure telle qu'il y a dans le thésis.
S, c'est toujours la lettre la plus difficile.
Alors, je vais t'embêter, moi je trouve que c'est une des lettres les plus faciles à dessiner. Moi je trouve que c'est une des lettres les plus construites. Voilà, une fois. Non, la plus difficile pour moi c'est le E.
C'est le E ?
Ouais.
E, podcast, bien sûr.
Bien sûr, oui. Mais oui, il y a une espèce, il y a un peu tout qui est dit dans le E et le A, évidemment, le grand classique, le A. Je pense qu'on passe, quand on crée une police de caractère, on passe 3 ans à travailler le A et une semaine à... Je rigole, mais c'est... on revient toujours sur le A. On a l'impression que tout est dit dans le A, et entre type designer, on se compare ces A. Mais le... Donc bref, ensuite, en deuxième année, ils créent une police de caractère comme ils veulent, mandat libre, ils font ce qu'ils veulent. Et ensuite, troisième année, ils peuvent continuer des polices caractères qu'ils ont déjà fait, où on recrée des nouvelles dans le cadre d'un autre cours. C'est-à-dire que si quelqu'un fait, je sais pas, une signalétique ou je sais pas quoi, il peut créer une police de caractère pour signalétique. C'est toujours des mandats assez larges, donc ça peut être très...
Donc c'est à partir de la troisième année, tu bosses avec d'autres profs. Tu t'inclus dans un programme plus général.
C'est tout nouveau, ça. C'est la première année qu'on a fait cette expérience-là. Avant, en chaque...
C'est pas idiot.
Bah oui, parce qu'après, on a le diplôme, en fait, deuxième semestre. Et le deuxième semestre, ils étaient lancés un peu comme ça, avec un projet, puis 7 ou 8 profs qui les suivaient. D'accord. Et on s'est dit que... Enfin, c'est pas mon idée. Hein. C'est François Rappeau, qui est le chef de département, qui a décidé que le premier semestre de troisième année, il y aurait deux projets suivis par tous les profs.
D'accord. Et puis, combien d'étudiants à l'école en tout?
Donc, toute 500, l'école. 600 Moins. Ils sont 100, 300, 350. Par contre, les bâtiments sont absolument démentiellement grands.
Ah oui.
C'est une ancienne usine qui a été faite par... Vous connaissez Bernard Tchoumi, l'architecte.
Ouais.
C'est lui qui a refait l'école. Qui a refait l'école. Et, c'est juste... C'est une espèce de monstre. La salle tous les graphistes des trois années confondues sont dans la même salle. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien, mais la salle est à peu près grande comme un terrain de football. C'était une halle, je dis grandement, elle fait, la salle, je crois qu'elle fait 60 ou 70 mètres de long, sur 30 mètres de large, avec des tables comme ça, et tous les cours, tout est donné, il n'y a pas de cours en fait, mais tout est donné un peu, c'est un énorme foisonnement comme ça, et tout est ouvert, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de, tu passes d'un département à l'autre, c'est un outil absolument incroyable. C'est tout nouveau, ils viennent de l'ouvrir, les cales étaient dans deux bâtiments jusqu'à il y a 3 ans, et là ils ont fait construire un bâtiment exprès pour l'école. Et là maintenant, la grande nouveauté...
On parle français, allemand, anglais, italien,
Principalement français,
principalement
parce que,
français.
Mais il y a plusieurs cours qui sont donnés en anglais parce que les profs viennent... Il y a beaucoup de profs zurichois.
D'accord.
Ça dépend, il y a des périodes zurichoises. Là, on est en train de redevenir dans une période zurichoise.
D'accord.
Et donc, les Zurichois donnent des cours en anglais. Les Romands n'aiment pas l'allemand. Donc, en Suisse, on se parle en anglais. Ça, c'est une... Chaque fois qu'on va à Zurich, on doit se parler en anglais. Et, donc, la grande nouveauté maintenant, c'est ça l'événement, on va dire, peut-être, qui couronne cette histoire de Type Design, c'est qu'on ouvre un master qui commence en septembre de Type Design. C'est marrant, moi j'ai mis une news sur le typographe, il n'y a personne qu'on a vraiment parlé, mais c'était quand même l'annonce d'un master en Type Design ailleurs qu'à La Haye et à Reading, en français. Voilà, personne n'en a parlé.
On
mais,
va en parler sur Design Typo.
Voilà, donc il y a, je sais pas où en sont les inscriptions, mais on prend 15 personnes. Alors l'intitulé du master, c'est... Art Direction Type Design / Photographie. C'est-à-dire que sur les 15 étudiants, il y en a qui vont faire de la photographie, d'autres de l'art direction dans la typographie, donc même jusqu'au design typographique, pas le...
Est-ce qu'on peut considérer au fond, parce que moi j'ai tendance à considérer que lorsqu'on a un très bon typographe, on est aussi pas loin d'être un très bon directeur artistique.
Je pense, oui.
Mais... La question, au fond, est un débat énorme aujourd'hui parce que dans beaucoup d'écoles, il y a des filières communication, des filières psycho, des filières design interactif, web design, etc. Et on a l'impression qu'avec ces filières, il y a des coupures entre les enseignements, alors qu'au final, moi, ma théorie n'engage que moi, c'est que le numérique a créé une nouvelle génération d'artistes où il n'y a plus d'exécution, il n'y a plus que le créatif. C'est-à-dire que le numérique, pour moi, c'est un lieu commun où on n'a plus besoin d'exécutants parce que, clairement, un bon DA, il sait parfaitement exécuter tout ce qu'il a besoin de produits correctement.
En Suisse, c'est pareil pour l'édition. Hein. C'est marrant, c'est en France, j'ai découvert un métier qui était, je ne sais plus comment vous l'appelez, mais qui était maquettiste.
Oui,
ça n'existe pas chez nous.
Ben voilà. Et donc, il y a un vrai pour moi, il y a un vrai débat, c'est y a-t-il plusieurs métiers ou n'y a-t-il qu'un seul métier ?
Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont je voulais parler avec toi parce que j'ai été fasciné par ce que tu es en train de mettre en place par rapport au design de sites de presse, on va dire, pour simplifier. Le débat que tu as organisé, je regrette de ne pas arrêter là, mais je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et ça, nous, on s'est posé ces questions en fait, très brièvement à l'école. Et je me rappellerai le jour où François Rapeau a simplifié la question, où c'était Maxime Buchy donc, qui enseignait à l'époque à l'école, il va revenir à enseigner à l'école, normalement. Mais là maintenant, il n'y était pas. Et François lui avait demandé de donner un cours d'identité visuelle. Et Maxime lui disait, voilà, je pense donner, il y aura, c'était pas comme ça, mais pour caricaturer, il a dit, je vais donner le papier à l'aide, la carte de visite, et le bus et le site internet. Voilà. François Rapeau le regarde et lui dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Dis-moi que tu as décidé la base sur le papier à l'aide, basta, c'est ça le design graphique. Et on arrête là. Et je pense que tout l'enseignement qu'on a maintenant, que nous, tel qu'on l'envisage, donc, c'est un métier. C'est qu'on est des designers graphiques. On gère l'espace. C'est tout. Un écran, un journal, un iPhone, ça n'a aucune différence. Le processus de réflexion sur la gestion.
La différence, c'est les formats.
Alors ça, c'est des problèmes techniques. Mais comme designer, mais c'est la même chose que designer
Il n'y a pas de différence. Sur le fond, il n'y a pas de différence.
Pas de différence. C'est un faux problème.
C'est un faux problème, de même qu'un graphiste était capable de travailler sur un livre miniature, comme sur un grand format.
Sur un poster,
Et qu'effectivement, mettre en page un format à croix, comme on a ici sous les yeux, n'est pas du tout la même que de mettre en page un livre ou mettre en page un petit prospectus.
D'ailleurs, il y avait des très bons designers pour faire des livres de poche.
Ouais.
Et ils étaient très mauvais pour faire des affiches. Et inversement.
Voilà. Quelquefois, ils étaient aussi bons, qu'ils étaient connus pour une chose et pas pour
voilà,
l'autre.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Il y a toujours eu des contraintes. L'écran est c'est une nouvelle contrainte, mais dans un métier qui est fixé, qui existe. Toi, dans ton blog, tu en as souvent parlé, tu parles de Gutenberg. Finalement, la problématique, elle est la même, elle n'a pas changé depuis 500 ans. C'est le même problème.
On est juste rentré dans l'ultramobilité.
Voilà.
Mais on est passé du caractère mobile au caractère ultramobile.
Voilà. Mais le débat que tu avais sur la presse, il est fascinant parce qu'on a l'impression qu'on a créé des espèces de monstres. Je parle des graphistes qui font ça. C'est-à-dire qu'on les a pris dès le début par la main en disant « Ouh là, non, le graphiste, vous n'allez pas y toucher. Hein. » Faire créer un graphiste de magazine ou je sais pas. Non, c'est pas votre truc. Vous avez designé des sites web. C'est attention, c'est nouveau. Mais les pauvres, déjà les profs n'étaient pas compétents pour les former. Et en plus de ça, au tout début de ça, il y avait un dédain pour le web. C'est un peu l'enfant pauvre du design. Alors c'est des mauvais graphistes, tous ces gens-là.
Pour le web HTML. Il n'y a pas eu de dédain pour le flash. Le flash,
Modèles économiques, le site web, c'était le parent pauvre du truc.
Tout à fait, mais malgré tout, il y a eu quand même une génération de graphistes qui s'est ruée sur Flash, qui a recréé des espaces.
S'amuser.
Il y a eu des très beaux designs.
Je dis juste que dans le modèle économique, pendant très longtemps, les entreprises, elles s'en foutaient de leur site web. Je veux dire, elles donnaient ça coûtait très cher, mais elles disaient, bon, ok, s'il faut le faire, on le fait. Et puis les gens, dans le processus même, dans l'enseignement, ça se ressentait. Nous, c'était je me rappelle quand je suis rentré à l'école, ils appelaient ça nouveau média à l'époque. C'est ceux qui n'étaient pas capables d'aller en graphisme et puis qui avaient eu un ordinateur chez eux, ils adoraient les jeux vidéo, alors ils disaient non, le graphiste c'est pas pour toi. Mais c'était des mauvais graphistes. Maintenant, nous, c'est comme ça que moi je vois la chose et c'est comme ça que j'aimerais que, si je devais vraiment donner mon avis dans l'enseignement, dans l'école où je suis, pour moi il ne devrait pas y avoir d'enseignement de design interactif. Il devrait y avoir un bachelor, on enseigne le graphisme, dans lequel on parle de l'écran, on parle de l'affiche, on parle de tout, et ensuite on fait des masters. Et dans les masters, on parle de la problématique. De la même façon qu'il ne devrait pas y avoir une école qui fait 3 ans de type design. On parle du type design dans l'école, et ensuite on fait un master en type design. C'est une spécialisation, ce n'est pas un métier en soi.
Chez nous, la filière, elle commence
commence pas en master, on commence en...
Vous n'avez pas de master
Comment?
Vous n'avez pas des masters
Non, nous, on est en bac plus 5, donc on est...
C'est pas encore bachelor, alors.
Non, non, nous, c'est bac plus 5, c'est 3 années plus 2 années. 3 années après le bac et 2 années suivantes.
Le papier qu'ils ont, c'est une...
C'est un diplôme, ils avaient un diplôme de bac plus 5... français, mais qui est européen. En fait, on est sur le modèle européen, ce qu'on appelle la licence, le LMD, c'est la licence master doctorat. Et on a un master, oui, on a un master. Le master démarre en troisième année, en quatrième année. On a un master, quatrième et cinquième année, c'est master.
Okay. Okay.
Et ensuite, on s'arrête là parce que le doctorat, on graphisme, on ne connaît pas.
Ça existe, mais.
Ça existe certainement, mais.
En Allemagne, ils en ont, mais. Pierre Keller avait dit quelque chose d'assez marrant. Il a dit, moi, j'aurai jamais de doctorat à l'école, le design n'est pas ma... Non, donc je pense que c'est marrant aussi, mais je reviens aussi à ce débat moi, qui m'a fasciné à l'écouter sur, que tu as mis en place. C'est drôle parce que c'est un débat qu'on a jamais, il viendrait l'idée de l'avoir en Suisse. Jamais.
Alors, le débat lui-même moi, je l'ai provoqué parce que d'abord par passion pour la classe.
Je dis pas qu'il est inutile, je dis que quand on parle de culture de graphisme,
ensuite,
il ne viendrait jamais dans cette. Il ne se poserait pas de cette façon-là.
On s'aperçoit quand même qu'il y a un vrai problème sur le design de presse en ligne globalement. Et particulièrement la France qui est extrêmement en retard en termes de design de presse. Extrêmement en retard.
Si je me permettais d'être méchant, je dirais que la France est un pays qui est extrêmement en retard en matière de graphisme.
Mais soyons méchants, disons-le, la France est très en retard.
Très en retard.
Mais, et cela est inhérent presque, je dirais, malheureusement, à une forme d'anti-germanisme viscéral français.
Il y a vraiment beaucoup de ça. Hein.
Il y a beaucoup de ça.
Énormément.
Ça, je l'ai déjà dit sur mon blog et je pense que.
C'est terrible.
Beaucoup de choses. Notre retard, elle vient des années 50, c'est-à-dire des années d'après-guerre, où on a eu horreur des Allemands et de tout ce qui venait d'Allemagne. Et le fait d'avoir ignoré le Bauhaus, et d'avoir ignoré tout le constructivisme russe à cause des bolcheviques, d'avoir ignoré, et qu'il a fallu attendre les années 80 pour voir Stark débarquer avec quelques idées des années 30, et Brody qu'on a accepté, parce que c'était l'enfant qui parlait un peu français, mais qui en Angleterre, il vient en France, etc.
Alors que les autres pays.
Alors
que les autres pays, l'avaient digéré, fini.
Mais on n'avait pas de Neville Brody, on n'a jamais eu Neville Brody en France. On l'a jamais eu. On n'a jamais eu l'équivalent Stark en graphisme en France. On a eu Stark pour le volume, pour le design volume, pour l'architecture. On n'a pas eu notre Stark en graphisme.
Bon, il y a. J'ai souvent. Des fois, je reviens à ça. Et... aussi l'influence de l'endroit où je suis, parce que souvent on nous bassine avec ça, mais c'est pas un hasard non plus que la France soit, enfin c'est un pays catholique.
Et
ça, il n'y a pas qu'un refus, il n'y a pas qu'un refus de l'Allemagne.
Il y a un refus du texte.
Un refus du texte et du signe.
Du signe, bien sûr.
Ça, je veux dire.
Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mon blog.
C'est pas un hasard si les grandes nations, on va dire, du graphisme, c'est la Hollande et la.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la France est particulièrement réfractaire. Alors que l'Espagne est beaucoup moins réfractaire.
Oui, mais ça reste pas. La production espagnole n'est quand même pas.
Elle n'est pas significative. Mais l'Italie, par exemple, quand on regarde. C'est le pays latin par excellence, et le design a quand même un rôle important.
Important, c'est ce qui s'est passé en Italie.
Et le graphisme en Italie a été quand même marqué par des grandes révolutions graphiques.
Et encore maintenant, il y a des productions graphiques italiennes, il y a des choses absolument fascinantes qui sortent maintenant. L'Italie, c'est l'exception qui confirme la règle.
Voilà, c'est ça.
Mais en Suisse, par exemple, vu qu'elle a cette particularité d'être divisée par région linguistique, et tu remarques que la région francophone a une histoire graphique très différente de la région germanophone. Et d'ailleurs, l'Écale, c'est une espèce de monstre. Elle a aucune raison d'exister à Lausanne. C'est d'ailleurs pour ça que tous les profs étaient jurés, quoi.
Et alors, cette fameuse école de Bâle, elle est devenue quoi ? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui ?
Je sais pas. Comme c'est la même question qu'on se pose pour Gérard d'Abbeville, tout ça. est-ce qu'il s'est perdu à la rame au milieu d'un océan.
Je sais pas. Gérard, si tu nous écoutes, excuse-nous.
Donne-nous tes nouvelles. Tu t'es fait manger par un kraken, je sais pas. Non, alors, l'école de Bâle, elle fut ce qu'elle a été.
Elle fut ce qu'elle a été, d'accord, ok. Voilà.
Moi, j'ai...
Paix à son âme, c'est ça ?
Pour l'instant, oui. Alors, ils essayent de relancer. Ouais. Depuis quelques années, 2-3 ans, on va dire, ils essayent de relancer le... Mais c'est trop tard. Ils n'ont pas pris le... On va dire que le cours de Bâle, de l'école de Bâle, tel qu'il était donné avant, dans son esprit, c'est le cours qu'on donne à l'école depuis 6 ans.
D'accord.
Et d'ailleurs, Weingart est venu donner des cours à l'école. On a vraiment une tradition. Maintenant, c'est surtout une des grandes personnes, pour moi, un des meilleurs graphistes du moment, Ludovic Ballan, je ne sais pas si j'ai entendu, le studio de Remington, qui est professeur à l'école. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui porte cette école de Bâle et cette tradition bâloise, mais à Bâle même, non. Mais une tradition. Par contre, l'école de Zurich continue à être ce qu'elle a toujours été.
Et Wuppertal, ça existe toujours en Allemagne ?
Pardon ?
L'école de Wuppertal.
Oui, moi, l'Allemagne, je ne connais pas du tout.
Une école graphique en Allemagne. Je crois que c'était du côté de Düsseldorf.
Je sais qu'il y a Ulm qui, de temps en temps...
C'était Wuppertal même.
Je sais qu'Ulm ressort des bons graphistes depuis quelques temps. Leipzig fait des trucs super.
Et le Royal College of London.
Le Royal College of Art, tu dis ?
Oui, de London. Ça se passe comment là-bas ? C'est Saint-Martin qui prend le dessus.
Je n'ai pas très bien suivi. Je crois que c'est très anglais.
C'est beaucoup plus connu, quoi, aujourd'hui.
Oui, il y a le LCC qui monte fort en Angleterre. C'est très très bien ce qui sort du LCC.
Et aux États-Unis, tu vois quelle école qui symboliserait la renaissance du graphisme, une forme de renaissance moderniste et en même temps cultivée.
C'est un truc étrange, les États-Unis, non ? Je sais pas. Moi, je comprends. J'ai jamais compris comment ça se faisait. J'ai pas beaucoup de graphistes d'ailleurs que j'admire maintenant qui sont américains. Enfin, à part des anciens, mais. Et pourtant, t'as des agences complètement incroyables. À New York, il y a des trucs complètement fous. Hein, je veux dire, c'est... Mais je sais pas d'où ils sortent. Je sais qu'à Yale, viennent depuis 2-3 ans de recréer un programme qui est absolument incroyable. Ils ont pris tous les profs hollandais de Rietveld, et ils font aussi du type design avec Tobias Fairjones. Ils ont comment elle s'appelle, Linda von Dersen, enfin c'est celle qui était responsable du département design graphique à Rietveld, et j'ai vu des choses et c'est impressionnant. Enfin, c'est l'école hollandaise, Experimental Jet Set vont là-bas aussi, donc c'est la seule nouvelle que j'ai vue. Je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse. T'as vu que j'ai pas de...
Le film Helvetica, si tu l'avais fait toi, qu'est-ce que tu aurais fait de différent ? Qu'est-ce que tu aurais rajouté ou enlevé dans le film Helvetica ? Ou est-ce que tu trouves qu'il est parfait tel qu'il est ?
Je te dise la vérité, je crois que je l'ai même pas vu en entier. J'ai arrêté au bout d'un moment. En fait, il y a quelque chose... Moi, j'aurais voulu dire autre chose sur Helvetica, en fait, qui me touche.
Bah voilà.
C'était cette histoire de ce faux débat, mais c'est aussi parce qu'on est trop proche de la France et j'entends surtout des Français parler de ça. C'est ce faux débat sur la neutralité de l'Helvetica.
Il n'est pas neutre, l'Helvetica.
Tout sauf neutre, c'est aussi la simplicité du dessin. Je pense que c'est une des fontes les plus compliquées. Je pense que c'est le design le plus compliqué à faire. C'est le A, c'est le truc le plus fou du monde.
Le A,
c'est vraiment incroyable.
Qui est loin d'être asexué, elle est hyper sexuée.
C'est le design le plus.
Sensualité extraordinaire, le A.
C'est incroyable. Et c'est marrant parce qu'on parle de constructivisme, de forme construite et tout. Pour moi, l'Helvetica, et particulièrement le A, c'est la chose la plus organique qui existe. Et je pense que tous les gens, mais là, on parlait avant de l'absence de Bauhaus et de. Les Français n'ont jamais eu le modernisme. C'est qu'ils n'ont jamais compris le modernisme, qu'ils ne l'ont pas eu. Et ils n'ont jamais compris quelle était l'essence même du modernisme. Comment, quand ils allaient dessiner de ces ponts suisses allemands absolument incroyables, en fait, ces formes venaient en fait complètement de l'étude de la nature et comment ils restylisaient des formes, des formes naturelles. Et finalement, l'Helvetica, c'est ça. C'est ultra organique, mais dans le bon sens du terme. C'est pas organique dans le sens où on fait des polices de caractère qui sont faites pour faire des logos de crèmerie à la hollandaise. C'est le vrai organique.